c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, 1,5 milliard de touristes ont arpenté le monde en 2019. Plus de la moitié ont pris l'avion, essentiellement vers l'Europe, mais l'Asie et l'Afrique sont devenues des destinations à la mode. Et les perspectives optimistes affichées par l'Organisation mondiale du tourisme donnent le vertige, enfin donnaient le vertige, car depuis la crise du Covid, c'est arrêt sur image. Avions cloués au sol, hôtels et restaurants fermés, les flux de voyageurs qui ont permis de répandre l'épidémie ont été stoppés net et ne semblent pas prêts de repartir. Alors doit-on s'en réjouir ? Oui, si l'on pense aux impacts environnementaux du tourisme de masse. Non, si l'on réfléchit en termes d'emploi et d'altérité, car le voyage, c'est aussi aller à la rencontre d'autres cultures et c'est, vous allez l'entendre, dans notre nature. Alors peut-on encore voyager sans culpabiliser ? Nous en parlons tout de suite avec nos invités.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Rodolphe Christin.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous venez de publier « La vraie vie est ici, voyager encore ?» point d'interrogation aux éditions Éco-Société. Alors le tourisme, même s'il reste réservé à ceux qui en ont les moyens, hein, c'est devenu réellement une industrie.
Oui, le tourisme est une industrie, c'est la première industrie mondiale et sinon, parce que parfois les chiffres sont un peu contestés, c'est l'une des premières industries au monde. C'est-à-dire que c'est une industrie qui en plus englobe différents secteurs d'activité, les transports évidemment, mais l'hôtellerie, la restauration, même les interventions de maintenance des sites, des hébergements peuvent d'une certaine manière être intégrées dans l'économie touristique. Donc quand une telle économie s'effondre, pour les territoires qui en dépendent de manière trop exclusive, c'est à chaque fois un drame et la situation actuelle est emblématique d'une situation que personne n'avait prévue, mais qui néanmoins, je pense, était prévisible, sinon dans son ampleur, au moins dans les impacts qu'elle peut avoir sur les territoires qui sont trop exclusivement dépendants du tourisme.
Alors, quels sont les chiffres clés, en gros, du tourisme mondial aujourd'hui ? Je disais 1,5 milliard de touristes en 2019, mais au-delà de ça ?
Une croissance annuelle de l'ordre de 5,5%. Pour ce qui concerne l'Afrique et l'Asie, on était plus sur des croissances de l'ordre de 7%. Néanmoins, il ne faut pas non plus imaginer que le tourisme est pratiqué par tout le monde dans le monde et que tout le monde va partout. 48% des touristes sont européens. Le premier continent en termes d'arrivée de touristes internationaux, c'est l'Europe. En revanche, une population montait, une nationalité montait, c'était les touristes chinois, qui étaient les plus dépensiers des touristes internationaux. Donc évidemment, la crise qui est actuelle va remodeler tous ces chiffres à la baisse, évidemment. On peut difficilement faire de projections, mais on peut parier que la sortie de cette crise sera longue et pénible.
Alors, dans votre précédent livre, le manuel de l'antitourisme, vous parlez de mondophagie touristique. Ce n'est pas très positif.
Non, alors moi, je m'inscris dans une forme de critique du tourisme. La mondophagie, c'est quoi ? C'est qu'il y a un paradoxe du tourisme, c'est que plus on est attiré nombreux par l'ailleurs, plus on contribue à altérer cet ailleurs et notamment à détruire son altérité. C'est l'exotisme que Ségalen appelait la notion du différent, la notion de ce qui sort de notre mentalité quotidienne et qui est un des moteurs du voyage. Aujourd'hui, on peut se poser la question si c'est encore une motivation du tourisme, parce que les lieux touristiques sont de plus en plus standardisés où qu'on soit sur la planète. Aucune destination, aucune latitude fut-elle extrême, le Grand Nord, le Grand Sud, la jungle, finalement, rien n'échappe à l'industrie touristique. Et dès lors qu'une destination marche d'un point de vue touristique, eh bien, elle est très vite aménagée, des infrastructures y sont implantées, des prestations de services y sont disséminées pour offrir plein de propositions commerciales aux clients qui débarquent. Donc tout ça contribue à altérer les territoires durablement, à la fois les sociétés d'accueil, mais aussi les écosystèmes d'accueil. Les natures sont modifiées.
Et d'ailleurs, on a vu des sondages assez étonnants récemment, puisqu'en Thaïlande, je ne sais pas si vous avez vu ce sondage, mais il y a eu un sondage d'opinion effectué du 9 au 12 juin sur plus de 1000 personnes à travers le pays par l'université Swanduzit Rajabhat. Et quand on leur demandait est-ce que vous voulez que les touristes étrangers reviennent visiter la Thaïlande prochainement, eh ben, ils étaient 75% à répondre non. C'est quand même saisissant, alors que c'est un pays qui dépend massivement du tourisme.
Alors, on observe depuis ces dernières années la fissure de ce que j'appelle le consensus touristique, c'est-à-dire que le tourisme ne fait plus consensus sur ses bienfaits, à la fois ses bienfaits économiques, parce qu'on se rend bien compte que la manne du tourisme est loin d'être égalitaire. Ensuite, on connaît de plus en plus ses méfaits écologiques, notamment liés à une surfréquentation qui va détruire les écosystèmes. Et puis, il y a aussi ce phénomène qu'on croit assez récent, mais qui en réalité, de mon point de vue, ne l'est pas, qu'on appelle le surtourisme, et qui a eu une certaine forme de notoriété médiatique, parce qu'il touche aujourd'hui des grandes capitales, il touche des grandes capitales européennes avec des mouvements de mécontentement qui ont émergé, et même des mouvements de contestation du tourisme assez argumentés politiquement. Et donc, le tourisme aujourd'hui ne fait plus consensus. Donc, ce sondage ne m'étonne qu'à moitié.
Oui, le surtourisme, on a vu ses impacts, notamment à Barcelone, à Venise, qui étaient des villes où les populations en ont ras-le-bol des touristes. Bonjour Sébastien Porte.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous venez de publier Le dernier avion, comment le trafic aérien détruit l'environnement chez Tana Édition. Alors, plus de la moitié des touristes dont nous parlions avec Rodolphe à l'instant prennent l'avion, un trafic aérien qui, lui aussi, est en pleine expansion. Dans votre livre, vous dites que ce trafic double tous les 15 ans.
Oui, c'est ça. Et si on s'inscrit dans une échelle de temps un peu plus large, on constate qu'il y a une croissance absolument vertigineuse du trafic aérien qui va de pair avec celle du tourisme. Alors, trois chiffres sur le tourisme. En 1950, 25 millions de touristes. En 1980, 278 millions de touristes dans le monde. Et maintenant, on est à 1,5 milliard. Côté avion, c'est une courbe tout à fait comparable. On était à 2 milliards de passagers par an il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est à 4. Et en 2050, on s'attend à avoir 16 milliards de passagers chaque année dans les avions.
Alors, l'avion, c'est vrai, est beaucoup montré du doigt. Hein. Il y a eu toute une campagne, notamment dans les pays du Nord, où on commence à pointer du doigt les gens qui prennent l'avion, à des gens qui disent « j'assume plus », etc. Et, mais il y a d'autres gens qui ne comprennent pas en disant « mais l'avion, bon, d'abord, finalement, ce n'est pas le transport numéro un dans le monde, c'est que 6% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Pourquoi est-ce qu'on tire comme ça à boulet rouge sur l'avion ?»
L'avion, c'est quand même un mode de transport relativement récent. L'aviation commerciale, c'est 100 ans. Au début, c'était plutôt un objet qui nous faisait rêver, c'était un objet d'aventure. Donc, il y a toujours cette aura de romantisme un peu luxueux qui entoure le voyage aérien. Et jusqu'à une période assez récente, c'était chic de prendre l'avion. Les choses ont quand même changé. D'abord, il y a eu une démocratisation de la pratique aérienne, donc plutôt relative. Hein. On considère aujourd'hui que 95% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion, ce qui montre que ça reste quand même un transport d'une élite. Mais malgré tout, depuis le début de ce siècle, on monte dans des avions quand même beaucoup plus facilement qu'au siècle précédent.
Mais si on revient à l'impact environnemental, en fait, si on monte l'avion du doigt, c'est aussi parce que, comme vous le décrivez dans votre livre, il déstructure littéralement des territoires. L'impact de l'avion, ce n'est pas uniquement les émissions de gaz à effet de serre dues au kérosène.
Oui, alors je parle d'aérotropolis, un concept qui a été développé il y a quelques années, et qui consiste à dire que finalement la ville de demain, ce sera une ville qui se sera structurée autour de l'aéroport, de la même manière que les villes se sont structurées autour des ports maritimes après la Renaissance, de la même manière qu'au XXe siècle, ils se sont structurés autour de la route. Aujourd'hui, certains estiment que c'est autour de l'aéroport que ça va se passer.
Et une bétonisation massive au passage. Alors avec la crise du Covid, tout s'est arrêté. À l'heure du déconfinement, eh bien, les États qui en ont les moyens multiplient les plans de relance pour soutenir, par exemple, le secteur aéronautique.
Ce plan, il est construit autour de trois grandes ambitions. La première, c'est évidemment de sauver les emplois. Les aides que nous apportons doivent permettre à Airbus, à Thales, à Dassault, à Safran, de préserver au maximum les emplois en France.
Les compagnies aériennes, c'est la raison d'être de tout le secteur aéronautique, toute la filière, y compris les aéroports. D'ici 2040, Airbus devait livrer 40 000 avions dans le monde. Depuis le début du coronavirus, les compagnies ont gelé leurs commandes. Emirates, une des plus rentables au monde, soutenue à coups de subventions et de carburant bon marché, va devoir licencier. Mais son premier geste a été de stopper les commandes d'Airbus et de Boeing pour des dizaines de milliards de dollars.
Le besoin est urgent pour un plan de sauvetage. Certains transporteurs ont vu leurs revenus fondre de 90 % et leur survie est menacée.
Nous décrétons donc ce matin l'état d'urgence pour sauver notre industrie aéronautique, pour lui permettre d'être plus compétitive, pour lui permettre d'être plus décarbonée au 21e siècle.
Le contribuable peut s'étrangler du soutien massif de l'État à une compagnie comme Air France, mais l'Italie fait pareil avec Alitalia, l'Allemagne avec la Lufthansa.
Lufthansa va supprimer 22 000 emplois dans le monde. Ce n'est pas une surprise. Le groupe avait annoncé un plan de restructuration au début du mois.
Mais on peut imaginer du coup une reprise de l'aéronautique qui va être très lente, peut-être 5 à 8 ans simplement pour revenir au niveau qu'on avait en 2019, donc probablement aussi des dizaines de milliers d'emplois qui vont être détruits, des compagnies aériennes qui vont faire faillite en grand nombre.
Telle est l'ambition de ce plan et qui représente un effort total de 15 milliards d'euros de la nation.
Voilà un zapping de l'actualité signé François Porcheron. Sébastien Porte, comment réagissez-vous à ce zapping ?
Oui, alors effectivement, ça nous montre qu'on est en train de traverser une période qui relève du jamais vu. Ça avait fléchi pendant quelques semaines au moment des grandes crises comme les attentats du 11 septembre ou la crise des subprimes en 2008, mais jamais on avait atteint un impact aussi cataclysmique sur le trafic. On voit que toutes les commandes sont à l'arrêt. Donc la flotte mondiale risque probablement de rétrécir, ou au moins de ne pas augmenter autant qu'on l'imaginait. D'autre part, cette flotte mondiale va se restructurer au sens où on aura beaucoup moins de gros porteurs qu'avant. Les très gros porteurs qui étaient très gourmands en carburant vont être mis au rancard pour diverses raisons.
Alors justement, à propos des quand vous dites gourmands en carburant, est-ce qu'on peut miser sur la technologie pour minimiser l'impact de l'avion dans les années à venir ? Parce que, par exemple, on parle d'avions électriques, on parle d'avions qui vont voler avec du biocarburant, le biocarburant ayant des impacts environnementaux discutables. En quelques mots ?
Les agrocarburants, ça ne pourrait rentrer en ligne de compte dans les réservoirs qu'à hauteur de 20% maximum. Quant à l'avion électrique, c'est pas pour demain, parce qu'il serait forcément limité aux courtes distances en raison du poids des batteries. Les moteurs électriques, pourquoi pas, mais pas tout de suite.
Alors, faut-il pour autant, Rodolphe Christin, s'interdire de prendre l'avion ?
S'interdire de prendre l'avion, je pense qu'effectivement, il faudrait revoir notre manière de se déplacer, parce que ce que je pourrais ajouter, c'est que l'avion a transformé l'expérience du déplacement. Pour que le tourisme puisse se développer comme il l'a fait ces dernières années, il a fallu que les gens partent de plus en plus souvent, de plus en plus loin, de plus en plus facilement. Donc, l'avion a largement contribué à rendre le déplacement facile parce que, historiquement, le fait de se déplacer dans l'espace a toujours été une épreuve psychologique parce qu'on s'éloigne des siens, on s'éloigne de son territoire de reconnaissance, une épreuve physique parce qu'on s'expose aux intempéries, on prend la route à proprement parler, on s'expose à ce qui advient et on ne sait pas vraiment ce qui advient. C'est la part d'aventure liée au fait de se déplacer. Donc, toute l'évolution technologique qui a contribué à rendre le déplacement indolore, insipide et finalement à aseptiser la charge à la fois mentale et physique liée au fait de se déplacer dans l'espace, eh bien, l'avion est emblématique de ça. C'est-à-dire qu'entre le moment où on prend l'avion et le moment où on débarque, on est sur une espèce de temps mis entre parenthèses, d'expérience existentielle mise entre parenthèses. Et le voyage aujourd'hui, bien souvent, commence une fois qu'on est arrivé à destination. Donc, il y aurait sans doute à avoir une réflexion sur nos modes de déplacement qui intégrerait toute la distance, toute l'expérience liée au fait d'arriver là où on a envie d'arriver et de l'intégrer dans l'expérience du voyage.
Oui, ça me fait penser à une anecdote. Un jour, pour C'est pas du vent, nous sommes allés en Nouvelle-Calédonie, dans le genre voyage long, ça se pose là. Et en arrivant, on était un peu déboussolés. Et il y a un Kanak qui m'avait dit, c'est normal, il faut que vous attendiez que votre âme vous rejoigne. Donc c'est exactement ce que vous dites. Alors le tourisme n'a pas que des impacts négatifs. Nous en parlons toujours avec nos invités, juste après une pause musicale.
celebrate several weeks. My good GM's wedding, we took the holiday with all our friends. There was a time to relax and let you wear it behind. Exactly several weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning, our parents kicked us out of a bed. We told them it was stupid, don't play the fool. But the answer was shut, you got to go to school.
G's running up and down, and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street, kid show. Mike, the G rock the house, and you know what I'm saying. Now, when he's on a mic, there will be no delay. So you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream at us, we need a holiday. We're gonna ring a rang-a-dong for a holiday.
Put your arms in the air, let me hear you say.
We're gonna ring rang-a-dong for a holiday.
Put your arms in the air, let me hear you say.
We're gonna ring rang-a-dong for a holiday.
Mike and Jing and Sven, we're here to stay.
We're gonna ring rang-a-dong for a holiday.
Hey, check out the new style we just played.
We are going on a summer holiday. If you want to go, you're Sven. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam,
right?
We are going on a summer holiday. If you want to go, you're Sven. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam,
right? I want a holiday, I've screamed a lot. The only thing in school, the only thing I've got. That's where Sparrow stole me, I better go. That's where it's hanging on the street, in the street get show. Ain't about rocks, what happened to you? I told them it's my life, and I know what I'm doing. I saw it at school, I thought I'd never stay. Give me 7 weeks again, I need my holiday.
Well, this is my partner with the number one jam. Famous in the Boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocking, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play.
We are going on a summer holiday. If you want to go, you're Sven. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam,
right?
We are going on a summer holiday. If you want to go, you're Sven. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Nous nous demandons si nous pouvons encore voyager sans culpabiliser aujourd'hui avec nos deux invités. Rodolphe Christin, sociologue, auteur de La vraie vie est ici, voyager encore, point d'interrogation, aux éditions Éco-Société. Et Sébastien Porte, journaliste, qui vient de publier Le dernier avion, comment le trafic aérien détruit l'environnement, chez Tana Édition. Alors le tourisme, je le disais tout à l'heure, n'a pas que des impacts négatifs. Je vous propose par exemple d'aller au Costa Rica, le pays cité en exemple dans le monde entier comme le modèle de l'écotourisme. Direction plus précisément dans le sud du pays, dans la péninsule d'Ossa. Esther Coronado Silva est la secrétaire de l'association Corcovado El Tigre que les habitants du village Dos Brazos ont créé. Nous la retrouvons dans la magnifique maison communautaire de la coopérative construite tout en bambou. Nous sommes devant la fameuse entrée du fameux parc du Corcovado qui a été ouverte ici en 2015. C'était important pour vous d'ouvrir cette entrée ?
Ah, sí, era importantísimo para la comunidad.
Oui, c'était très important pour la communauté, puisqu'on a pu voir qu'il y avait de plus en plus de touristes qui venaient ici, ce qui est bénéfique pour la communauté.
Esther, on peut marcher combien de temps sur ce sentier ?
Et alrededor de 6 horas.
Autour de 6 heures, après ça dépend de la condition physique de chacun puisqu'on est dans un sentier montagneux, donc il y a des parties où ça monte plutôt pas mal.
Quel est l'objectif ? On va où là quand on prend ce sentier ?
Alors d'abord, on va passer par quelques fermes de la communauté avant d'arriver vraiment dans le parc national Corcovado. Ce sentier, c'est une boucle, donc en fait on ressort dans la communauté de Los Brazos.
Alors justement, cette communauté, parlez-nous de ce fonctionnement. Toutes les personnes qui vivent ici à la saison sèche vivent du tourisme, mais un tourisme communautaire, comment ça fonctionne ?
Alors le tourisme communautaire, c'est un tourisme qui fonctionne à travers notre association. Donc on la gère à travers une association à but non lucratif, on s'occupe des réservations, on assigne les guides pour les différents tours en fonction des langues qu'ils parlent bien évidemment. On a 25 guides qui travaillent dans la communauté.
Donc vous proposez des tours dans le parc du Corcovado. Qu'est-ce que vous proposez d'autre comme activité ?
Otra actividad sería el tour cultural de oro.
On a également le tour culturel autour de l'or, puisqu'ici on est dans une zone où il y a énormément d'or, mais il est interdit de l'extraire. Alors on propose simplement une petite démonstration pour comprendre comment on extrait l'or.
L'or ici, c'est le tourisme.
Exactamente. Necesitamos nada más que eso para seguir.
Exactement. On a besoin du tourisme pour avancer comme une communauté engagée dans le tourisme durable.
Combien de familles sont investies dans l'association touristique?
Somos 52 personas en la asociación.
52 personnes font partie de l'association. On peut dire que c'est environ 15 familles qui en font partie. Mais les bénéfices du tourisme ne vont pas simplement aux membres de l'association, sinon à toute la communauté.
Et donc, ça veut dire que toutes les activités de l'association, que ce soit loger les touristes, les accompagner pour faire des tours, aller observer la biodiversité, ça bénéficie réellement aux populations locales. C'est ça la différence par rapport au tourisme plus de masse que vous exerciez avant d'ailleurs.
Sí, correcto, muy diferente. Porque se ve el que todo.
Oui, c'est complètement différent et on voit que ici l'argent reste dans la communauté, ce qui fait que les gens peuvent vraiment se développer, avancer ici. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur pour chercher du travail.
Est-ce que la population avait conscience de l'incroyable potentiel touristique qu'il y a ici avant la création de l'association?
Non, para nada. La población no tenía conciencia en absoluto de la riqueza que tenía la riqueza natural del lugar.
Non, pas du tout. La population ici n'avait aucune idée de la richesse qu'ils avaient avec leurs ressources naturelles.
Donc ils exploitaient ces ressources pour eux-mêmes?
Sí, correcto. Tenían, aparte de la minería, había mucha cacería.
Oui, oui, c'est exactement ça. À part l'or, l'extraction d'or, ils faisaient également de la chasse.
Et si, también la tala de árboles.
Oui, oui, également ils coupaient du bois. Et toutes ces activités ont été complètement réduites grâce aux activités de l'association.
Alors, il y a eu l'interdiction de la chasse par le gouvernement en 2005, mais il a fallu la faire appliquer. Et c'est justement le travail de sensibilisation de l'association qui a permis petit à petit de changer les mentalités.
Exactamente, sí, con solo la prohibición, la cacería aquí seguía igual porque...
Exactement, ce n'a pas seulement été l'interdiction nationale qui a fait que ça a pu s'arrêter, puisque la chasse continuait malgré tout. Étant donné qu'on est loin de la capitale, c'était très difficile de contrôler, et c'est grâce à des ateliers, à des discussions que l'on a pu en venir à bout.
En 15 ans, les mentalités ont complètement changé, et aujourd'hui, les gens ont conscience de ce capital naturel.
Totalmente. Hace 10-15 años esto era totalmente otra cosa. Habían como 300 obreros.
Depuis 15 ans, ça a totalement changé. Quand je suis arrivée il y a 15 ans, il y avait environ 300 mineurs. La population était très pauvre et l'argent qu'ils avaient, ils le dépensaient en alcool et les familles devaient tenir le coup. Aujourd'hui, il y a environ 20 mineurs.
Y toda la población está enfocada hacia el turismo sostenible.
Et aujourd'hui, la plupart de la population est dédiée au tourisme durable. Aujourd'hui, c'est un village très calme. On peut se garer tranquillement dans les rues sans aucun problème.
Il n'y a plus d'alcool.
El alcohol siempre está.
L'alcool, il y en a toujours, mais bon, c'est pour des fêtes occasionnelles. Ce n'est pas quotidien.
Muchas gracias a ustedes por la visita.
Les singes hurleurs du Costa Rica, Rodolphe Christin, voilà un impact positif du tourisme. Les habitants de Dos Brazos sont sortis du Far West, hein, puisqu'il y a 25 ans, c'était un village de chercheurs d'or qui se sont complètement reconvertis dans l'écotourisme. Et les jeunes n'ont plus envie de partir.
Il y aurait beaucoup à dire. Il est clair que quand on interroge des gens qui vivent de l'économie touristique, il est difficile d'avoir des regards critiques, parce qu'effectivement, je ne nie pas le fait que l'économie touristique fasse vivre du monde. Hein. Mais l'économie touristique, c'est déjà le fait de territoires qui ont été transformés par une logique sociétale qui est de nature occidentale. Tout comme l'exploitation des ressources, l'économie extractiviste est le fruit d'une idéologie liée à l'industrialisation de la société, des sociétés. La protection de la nature, la mise sous cloche de la nature, c'est aussi une forme d'exploitation de la nature. Alors d'exploitation esthétique, mais touristique également, qui est aussi le fruit de la mentalité occidentale et qui va avant tout séduire des touristes occidentaux. Donc en tant que touriste, lorsqu'on va visiter des territoires comme ceci, des villages comme ceci, on n'est pas face à une économie de subsistance qui serait plus authentique qu'une autre. On est déjà dans une économie qui s'est convertie a une logique qui est occidentale, qui est destinée à des touristes pour la plupart occidentaux, j'imagine. Et donc, on est déjà dans des économies transformées. De surcroît, moi, que des gens vivent de la chasse dans des environnements de jungle et de nature, ça ne me pose pas vraiment de problème. Après tout, l'humanité a pendant longtemps vécu de chasse, de pêche, et c'est une économie de subsistance qui n'a pas à être transformée forcément et qui n'est pas forcément destructrice de l'environnement à des degrés tels que l'industrialisation ou voire même que la mise de l'exploitation touristique. C'est-à-dire que c'est pas une économie qui est pire qu'une autre. Donc, simplement, je voudrais tempérer le fait que l'économie de ce tourisme-là, de ce tourisme communautaire, n'est pas plus authentique qu'une économie touristique classique. Ensuite, bien souvent, on oppose tourisme de masse à tourisme communautaire, souvent connoté d'une dimension éthique. Mais le tourisme de masse, c'est tous les segments de l'activité touristique qui vont séduire des clientèles avec des attentes particulières, qui se répand dans toutes les sociétés du monde, pour ainsi dire, et qui contribue à une massification de l'activité touristique. C'est-à-dire que le tourisme de masse, c'est le tourisme balnéaire, plus le tourisme communautaire, plus le tourisme de montagne, plus toutes les autres formes de tourisme qui font qu'il n'y a plus aucun territoire qui ne lui échappe finalement, et plus aucune mentalité aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un projet de développement qui fait l'impasse sur le tourisme. Le tourisme est devenu une espèce de réflexe conditionné, et c'est aussi ça qu'il faut relativiser.
Alors, au passage, Sébastien Porte, pour aller faire ce reportage, nous, l'équipe de C'est pas du vent, on a pris l'avion. Alors, vous qui êtes journaliste, c'est une petite parenthèse, mais finalement, le journalisme, parfois, ça peut être une forme de tourisme, hein, puisque nous aussi, finalement, on va à la rencontre, on va faire des reportages, découvrir des gens. Comment on fait ? On prend plus l'avion, on fait plus de reportages ?
L'ambition de ce livre n'est pas d'en finir totalement avec le transport aérien. Moi, je fais partie de ces gens qui adorent voyager, notamment en Afrique, par exemple. Bon, entre parenthèses, je pense que mes plus beaux souvenirs de déplacement en voyage, ce sont des déplacements en train. Mais c'est vrai que on a besoin, évidemment, de s'ouvrir au monde. Donc, oui, il faut voyager, mais il y a moyen de modifier quand même le comportement. Et je pense que cette crise sanitaire que nous venons de traverser est une formidable occasion de repenser notre rapport au voyage aérien. Probablement, essayer d'en finir avec ces espèces de sauts de puce ridicules où on va partir à Amsterdam sur un coup de tête ou à Barcelone pour faire du shopping. Il y a tout un volant de voyages superflus dont on peut se passer, quoi.
Oui, c'est vrai qu'il y a une différence entre le touriste qui part se faire bronzer sans sortir de son hôtel club pendant une semaine et le voyageur quand même qui souhaite vivre une expérience d'altérité. En tout cas, c'est cette dernière que défend Caroline Croze qui a créé en 2015 le média sur internet voyagefamily.com. Bonjour Caroline Croze.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous avez créé Voyage Family en 2015. C'est un média en ligne avec plus de 70 destinations, des mini-guides à télécharger pour voyager en famille, en Colombie, au Sri Lanka, à Cuba. Il y a une communauté de voyageurs que vous animez. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer Voyage Family ?
J'ai d'abord toujours été une grande voyageuse et j'ai toujours vu les bienfaits que ça m'apportait à moi en tant que citoyenne, dans mon ouverture sur le monde, dans ma capacité à créer, à être entrepreneur, à avoir une vision optimiste des choses. Et quand j'ai eu des enfants, logiquement, j'ai eu envie de leur transmettre ça, ce bonheur d'aller se connecter à l'humanité qui existe à l'autre bout de la planète, au bonheur de découvrir des cultures différentes et la richesse que ça nous procure. Et donc on a commencé à voyager ensemble. Et après notre premier voyage au Sri Lanka en famille, quand mes enfants étaient tout petits, je suis revenue avec une seule idée en tête. Il faut absolument que je témoigne de tout ça et que je pousse les autres parents à vivre la formidable aventure qu'on a pu vivre, nous, là-bas.
Alors pousser les autres parents, ça s'est donc traduit par ce média sur Internet. Parce que pour vous, du coup, voyager, ça fait partie, quand on en a les moyens, bien entendu, hein, ça s'adresse à ceux qui en ont les moyens, mais ça fait partie de l'éducation.
Quand on voit tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, ça fait plus que partie de l'éducation. Je dirais que si on a les moyens, c'est une sorte de devoir. Moi, je rêve d'enfants qui vont se confronter à la diversité et qui pourront devenir des citoyens ouverts, tolérants, curieux, dont nos sociétés ont grandement besoin. Et c'est vraiment tout ce que je souhaite à mes enfants pour demain.
Parce que le voyage, c'est différent du tourisme.
C'est vrai qu'aujourd'hui, la manière dont les dont on a transformé le tourisme, c'est devenu de la consommation. On a envie de prendre une destination et de cocher toutes les activités, toutes les photos instagrammables, tous les lieux où il faut passer. Quand on voyage de cette sorte-là, on en retire absolument, finalement, aucun plaisir, à part celui de pouvoir dire aux autres « j'ai fait ». Maintenant, la manière dont on voyage, nous, et ce que je propose sur Voyage Family, c'est de ralentir. Quand on part au Mexique, peut-être que faire 3 étapes, mais rester 4-5 jours à chaque fois au même endroit, ça permet de d'abord sortir des sentiers battus, parce qu'on aura vite fait le tour de ce qu'on est censé cocher, et puis de se mettre à regarder, à se poser, à rester assis à un café, à laisser aux enfants le temps de jouer au foot avec les autres enfants qui sont là sur la place, à discuter avec une personne qui va s'interroger de notre présence ici. Et c'est ça, à mon avis, la grande richesse de ce qu'on ramènera à la maison, c'est tous les moments un peu hors du temps qu'on aura réussi à créer en prenant le temps, en fait.
Et alors, comment est-ce que vous réagissez à des titres de livres comme « Le dernier avion, comment le trafic aérien détruit notre environnement » ou « La vraie vie est ici, voyager encore ?» point d'interrogation.
C'est des questions légitimes. Aujourd'hui, on ne peut plus nier la pression environnementale que l'on impose à notre planète. Donc, je pense que quand on achète un billet d'avion pour aller voyager, on doit voyager avec conscience, c'est-à-dire qu'on doit avoir conscience de l'impact environnemental, de la pression environnementale que l'on impose via ce voyage. Pour autant, je pense que les côtés positifs de ce voyage sont largement excédentaires, si je puis dire, si on a pris le temps de voyager en conscience, c'est-à-dire en allant voir les gens, en dépensant son argent dans les endroits où les familles locales vont pouvoir vivre, en prenant le temps d'expliquer à ses enfants la religion, la culture. Voilà, concrètement, les choses comme elles se passent localement, en prenant le temps de discuter avec les locaux de la culture française pour leur montrer que peut-être ailleurs, il y a d'autres manières de voir les choses. Et c'est vraiment un double sens, c'est-à-dire que nous, on va rentrer à la maison un petit peu changé. Et ça, encore une fois, je pense que vraiment, c'est ultra important que nos enfants s'ouvrent à tout ça. Et peut-être qu'on aura un petit peu changé les choses sur place, en donnant un petit peu de la France, de notre identité à nous, en leur proposant une sorte de fenêtre sur le monde à eux aussi. Donc moi, je refuse une société où on aurait une limitation sur nos déplacements. On l'a vu pendant le confinement. Moi, je l'ai vécu aussi comme une suppression de mes droits les plus essentiels. J'ai le droit de bouger, j'ai le droit d'aller voir le monde, j'ai le droit de bouger là où j'ai envie. Donc je ne veux pas de cette société où on serait obligé, où on aurait un droit à voyager et où on serait obligé de voyager dans un rayon de 10 km autour de chez soi. Je veux une société ouverte où on est connecté, où on s'apporte des choses les uns les autres, où on échange. La société a tout à y gagner.
Rodolphe Christin, comment est-ce que vous réagissez aux propos de Caroline Crose ?
Oui, je suis en partie d'accord avec ce qui a été dit. Voyager plus lentement, prendre plus de temps, faire du voyage une expérience exceptionnelle, y compris dans une vie d'individu. C'est-à-dire que je ne pense pas que le voyage soit un réflexe qui doit être utilisé, mis en œuvre dès lors qu'on a un peu de temps libre. Je pense que c'est quelque chose qui se mûrit. Néanmoins, en faire une espèce de viatique qui doit être communiqué à tout le monde et qui doit devenir une espèce de norme de comportement, là, je suis plus critique. Je pense que ceux qui sont motivés pour partir doivent partir et je pense que de toute manière, ils partiront quoi qu'il advienne. Néanmoins, je ne pense pas que tous les lieux doivent devenir accessibles à tout le monde. Je ne pense pas que le fait de voyager rende forcément plus intelligent et contribuer à la paix dans le monde. Souvent, moi, je rencontre des gens qui me disent « mais le tourisme contribue à la paix dans le monde ». J'aimerais qu'on me le prouve, je n'en suis pas du tout convaincu. Je pense que d'une certaine manière, le tourisme, c'est aussi un rapport asymétrique avec l'autre, notamment quand ce sont des gens des pays du Nord qui vont visiter des gens des pays du Sud. Il y a quand même quelque chose qui se joue qui n'est pas d'une parfaite égalité. Voilà, je voudrais, moi, remettre un peu en perspective et en cause cette espèce de réflexe du départ.
Alors, dans de nombreux pays, le tourisme est un moteur économique essentiel, notamment pour soutenir des programmes de protection de la biodiversité. Là aussi, ça pose question. Nous en parlons juste après une pause musicale.
C'est pas du vent.
Les voyages, on a beau dire, hein. Il n'y a rien de tel pour voir du pays.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
En regardant dans cette brochure, je m'y vois déjà. Cocktail au turquoise et plage privée. Un pied hors de l'Airbus, je me sens chez moi, les yeux sur le paysage rivé. Un gosse m'offre un collier de fleurs, d'autres tendent simplement la main pour un bakchiche. Je croise leur regard dans le rétroviseur, mais je suis déjà loin dans mon taxi. Je ne parle aucun langage, évite tout contact avec l'autochtone. Rêve de voir la faune locale en cage, excepté quelques Amazones. Bientôt le soleil tape, il fait trop chaud, trop humide. Et je me rappelle ses recommandations. Trop d'exposition au soleil accentue les rides. Alors je pousse ma climatisation. Je suis ce touriste. Assuré tout risque, je dirais pas terroriste. Simplement égoïste, je suis ce touriste. Assuré tout risque, je dirais pas terroriste. Simplement égoïste.
Tu ne veux pas savoir que derrière ton parasol, fini les transats et que les gens d'ici risquent la tôle en foulant leur propre sol, la plus belle plage de leur petit pays. Tu ne veux pas savoir qu'à quelque part de ta piscine chlorée, l'eau n'est pas potable. Tu ne vois que ce qu'on te montre quelque part, et tout va bien sur tes cartes postales. Tu as assouvi tes vices loin de la paranoïa, quelques billets sans te cacher. T'offre mes services et ceux de Nitaya.
Car ici la main d'œuvre est bon marché.
Tu es ce touriste, assuré touriste, dirais pas terroriste. Simplement égoïste, tu es ce touriste, assuré touriste, dirais pas terroriste. Simplement égoïste.
Détente que rien ne pourrait gâcher. J'ai bossé pendant 11 mois, alors j'enfile mes Ray-Ban à vision limitée, celle qui efface le tiers-monde du panorama.
Tu te dis que grâce à toi on vit mieux, et la plupart du temps tu n'y penses même pas. Jeune, vieux et parfois vicieux, tu te fous de quel âge on a.
De retour sur Paris, j'organise une soirée diapo, et je raconte un tas d'anecdotes. Là c'est moi et Pedro buvant du lait de coco. Promis, l'année prochaine, on y va entre potes. Je suis ce touriste. Assuré tout risque, je dirais pas terroriste.
Simplement égoïste, tu es ce touriste. Assuré tout risque, je dirais pas terroriste. Simplement égoïste.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI. Nous nous demandons si nous pouvons encore voyager sans culpabiliser avec nos deux invités. Alors, défendre la fin du tourisme ou la relocalisation du tourisme, on en parlait juste avant la pause, ça pose question, notamment au nom de la protection de l'environnement. Et ça peut aussi avoir des effets pervers. Bonjour Geoffroy Mauvais.
Bonjour Anne-Cécile Bras.
Vous êtes vétérinaire spécialisé en développement et en gestion des aires protégées en Afrique. Vous coordonnez le programme Aires protégées d'Afrique et conservation de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, depuis 2006. Alors le tourisme, il faut quand même le dire, c'est une source de revenus essentielle pour la plupart des aires protégées en Afrique.
Oui, c'est exactement ça. Alors ce n'est pas la seule ressource, c'est pas, dans certains cas, ça ne l'est pas du tout d'ailleurs, hein. Tout un tas d'aires protégées, communautaires, privées, sont gérées et financées par leurs propriétaires ou leurs gestionnaires, hein, on peut le comprendre. Mais dès lors qu'on parle de grands territoires, de territoires où il y a des enjeux de conservation importants, des espèces convoitées, végétales ou animales, des rhinos, des éléphants, tout ce qui génère des coûts importants de surveillance, de suivi écologique, etc., il faut trouver des sources de revenus. Et ces sources sont d'origine étatique, les ONG, les dons, tout ce qu'on veut, mais une grosse partie, et parfois 100%, hein, de ces coûts sont couverts par le tourisme, et c'est vrai en particulier des grands pays touristiques de faune comme le Kenya, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, la Namibie, etc.
Et même dans les pays à faible taux de visite, le tourisme, c'est souvent la seule source de revenus pour les aires protégées, d'autant plus que les revenus apportés par l'État sont en général plutôt maigres.
Oui, oui, dans des pays avec finalement peu de tourisme, ça reste une source directe de revenus en cash hein, pour les structures locales, parce que même si l'État pourvoit une partie des besoins des aires protégées, ça n'est jamais assez. Donc le tourisme vient en complément et surtout il a un impact essentiel sur les acteurs locaux parce qu'il génère des revenus directement utilisés localement par les communautés, par les producteurs locaux qui alimentent les hôtels, les artisans, les guides, tous les gens dont le métier dépend de l'activité touristique.
Et le tourisme qui représente plus de 36% du produit intérieur brut du continent africain. Donc on comprend bien là les enjeux. Et vous vous dites que sans tourisme demain, on risque de perdre des pans entiers de la conservation de la biodiversité sur le continent.
Oui, c'est exactement ce qui va se passer parce que quoi qu'on en dise, la crise est déjà très très importante et elle est unique parce que au-delà des quelques mois qu'on vient de traverser, il y a toute l'inertie de la chaîne touristique qui est en cause, le redémarrage des avions, le redémarrage des transports nationaux, des infrastructures, des sous-traitants, etc. Donc le tourisme ne va pas redémarrer d'un coup. Et par conséquent, beaucoup d'aires protégées, dont une grande partie, voire l'essentiel des revenus dépendaient du tourisme, vont se retrouver dans une situation très délicate, ce d'autant plus que l'aide publique, internationale ou autre, se tarit parce qu'elle est divertie vers d'autres priorités qu'on peut comprendre. On ne peut pas encore le mesurer, on fera le bilan dans un an, mais il est évident que beaucoup d'aires protégées risquent, dans les semaines, dans les mois qui viennent, de se retrouver en très grande difficulté. Ça ne peut pas être sans conséquence sur la conservation de ces territoires.
Vous pensez à quels endroits en particulier, si vous pouviez nous donner des exemples?
En général, ça concerne tous les territoires, encore une fois, où il y a des enjeux. Donc, quand il faut protéger des rhinos, il faut avoir des gardiens, il faut avoir parfois des clôtures quand on travaille à la façon Afrique australe. Il faut avoir du matériel de surveillance, parfois des avions, des véhicules. Tous ces coûts de conservation doivent être couverts par des revenus directs importants. Le parc national du Kruger, que tout le monde connaît au moins de nom, en Afrique du Sud, fait 2 millions d'hectares, mais il reçoit 1 million de touristes. 1 million de touristes qui tout d'un coup disparaissent, on imagine bien que c'est un revenu phénoménal. Et ben, c'est assurément à la fin la faillite. Hein.
Et donc tout cela peut avoir un fort impact sur la biodiversité. Alors on parle de tourisme international, là, bien entendu, parce qu'en général le tourisme local ou national est assez faible en Afrique.
Le tourisme national est en général peu développé, à l'exception de quelques pays de type Kenya, Afrique du Sud, encore une fois, où là, il y a un vrai marché intérieur. Mais sinon, le reste de l'Afrique, c'est essentiellement des touristes internationaux qui, en plus, ont les moyens de payer les coûts relativement élevés d'accès dans les aires protégées et de séjour. Donc, la crise actuelle, elle est problématique parce qu'effectivement, on ne peut pas se reporter sur ce tourisme national pour compenser les pertes de voyageurs. C'est un tourisme qui, pour le moment, dépend essentiellement de voyageurs qui, actuellement, ne peuvent plus du tout se rendre dans ces pays.
Mais à côté de ça, vous êtes d'accord pour dire que le tourisme international n'est pas sans impact. Donc là, il y a quand même un paradoxe.
Ah ben, c'est un paradoxe, mais qui n'est pas apparu avec le Covid. C'est clair que les aires protégées, du fait du tourisme, subissent évidemment les désavantages du tourisme. La surexploitation de certains sites, les brassages culturels qui sont parfois malheureux. Et puis évidemment, il y a tout le problème du CO2 émis par les transporteurs. On sera tous d'accord là-dessus. Mais d'un autre côté, il faut trouver des solutions sur le long terme. Arrêter le tourisme d'un coup, en tout cas pour le contexte des aires protégées africaines, ce serait une catastrophe. Il faut laisser le temps à d'autres sources de financement de se mettre en place, de type, encore une fois, tourisme national, pourquoi pas, mais aussi d'autres formes de valorisation qui prendront le relais. Idéalement, dans 10 ans, dans 20 ans, les aires protégées africaines ne seront plus dépendantes, si étroitement dépendantes du tourisme international, mais aujourd'hui, elles le sont.
Merci Geoffroy Mauvais.
Merci, bonne journée.
Voilà qui interroge, Rodolphe Christin.
Non, je pense que tout l'enjeu est effectivement d'assurer la transition de cette économie-là qui, de toute manière, est orientée par le tourisme, pour le tourisme, et qui est d'une certaine manière hors sol, parce que là aussi, la contemplation de ces grands animaux, c'est un plaisir occidental, même si ces animaux méritent tout à fait d'être protégés, j'en suis bien conscient. Mais néanmoins, on est dans une forme déjà d'économie artificielle, en tout cas, on est dans une forme d'économie qui est à peine très, très locale, finalement. Donc, je pense qu'effectivement, un des grands enjeux, c'est d'arriver à relocaliser cette économie-là et à trouver des solutions pour que ces joyaux de la nature puissent survivre malgré tout. Alors après, quelles solutions? Je vous avoue que là, ce soir, maintenant, je n'en ai pas à vous proposer.
En guise de conclusion, du coup, peut-on voyager aujourd'hui sans culpabiliser? Que répondez-vous en quelques mots?
Je pense qu'il faut revenir à une réflexion sur ce que signifie le sens du voyage. Et de quels symptômes le tourisme est-il significatif? Et je pense qu'une fois qu'on aura réfléchi à ça, on regardera un peu la manière dont on vit ici, justement. Et c'est peut-être ici, dans cette espèce de vie quotidienne qu'on a et qui peut-être devient de plus en plus invivable et qui nous pousse à aller l'oublier dans des lieux spécialement organisés pour cela.
Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de vos livres, Le dernier avion, comment le trafic aérien détruit notre environnement. C'est publié chez Tana Éditions et La vraie vie est ici, voyager encore, point d'interrogation. C'est publié chez Eco Société. Merci aussi à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine. Même planète, même heure. Road tripping with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for.
Sol majeur.